Chapitre 10 et suivant. Le samedi à 7h du matin, le citoyen Blaise, en bicorne noire, gilet écarlate, culotte de peau, bottes jaunes à revers, cogna du manche de sa cravache à la porte de l'atelier. La citoyenne veuve Gamelin s'y trouvait en honnête conversation avec le citoyen Brotteau, tandis qu'Évariste nouait devant un petit morceau de glace sa haute cravate blanche. « Bon voyage, monsieur Blaise, » dit la citoyenne. « Mais puisque vous allez peindre des paysages, emmenez donc monsieur Brotteau, qui est peintre. » « Eh bien, » dit Jean Blaise, « citoyen Brotteau, venez avec nous. » Quand il se vit assuré qu'il ne serait point opportun, Brotteau, d'humeur sociable et ami des divertissements, accepta. La citoyenne Élodie avait monté les 4 étages pour embrasser la citoyenne veuve Gamelin, qu'elle appelait sa bonne mère. Elle était tout de blanc vêtue et sentait la lavande. Une vieille berline de voyage à 2 chevaux, la capote abaissée, attendait sur la place. Rose Thévenin se tenait au fond avec Julien Hazard. Élodie fit prendre la droite à la comédienne, s'assit à gauche et mit la main sur Julien entre elles deux. Brotteau se plaça en arrière vis-à-vis de la citoyenne Thévenin, Philippe Dubois vis-à-vis de la citoyenne Hazard, Évariste vis-à-vis d'Élodie. Quant à Philippe Desmahis, il dressait son torse athlétique sur le siège à la gauche du cocher, qu'il étonnait en lui contant qu'en un certain pays d'Amérique, les arbres portaient des andouilles et des cervelas. Le citoyen Blaise, excellent cavalier, faisait la route à cheval et prenait le devant pour n'avoir pas la poussière de la berline. À mesure que les roues brûlaient le pavé du faubourg, les voyageurs oubliaient leurs soucis et, à la vue des champs, des arbres, du ciel, leurs pensées devinrent riantes et douces. Élodie songea qu'elle était née pour élever des poules auprès d'Évariste, juge de paix dans un village, au bord d'une rivière, près d'un bois. Les ormeaux du chemin fuyaient sur leur passage. À l'entrée des villages, les matins s'élançaient de biais contre la voiture et aboyaient aux jambes des chevaux, tandis qu'un grand épagneul, couché en travers de la chaussée, se levait à regret. Les poules voletaient éparses et pour fuir traversaient la route. Les oies, en troupes serrées, s'éloignaient lentement. Les enfants barbouillés regardaient passer l'équipage. La matinée était chaude, le ciel clair. La terre gercée attendait la pluie. Ils mirent pied à terre près de Villejuif. Comme ils traversaient le bourg, Desmahis entra chez une fruitière pour acheter des cerises dont il voulait rafraîchir les citoyennes. La marchande était jolie, Desmahis ne reparaissait plus. Philippe Dubois l'appela par le surnom que ses amis lui donnaient communément. « Hé, Barbarou ! Barbarou !» À ce nom exécré, les passants dressèrent l'oreille et les visages parurent à toutes les fenêtres. Et quand ils virent sortir de chez la fruitière un jeune et bel homme, la veste ouverte, le jabot flottant sur une poitrine athlétique et portant sur ses épaules un panier de cerises et son habit au bout d'un bâton, le prenant pour le Girondin proscrit, des sans-culottes l'appréhendèrent violemment et l'eussent conduit à la municipalité, malgré ses protestations indignées, si le vieux Brotteau, Gamelin et les 3 jeunes femmes n'eussent attesté que le citoyen se nommait Philippe Desmahis, graveur en taille douce et bon jacobin. Encore fallut-il que le suspect montrât sa carte de civisme qu'il portait sur lui, par grand hasard, étant fort négligent de ces choses. À ce prix, il échappa aux mains des villageois patriotes, sans autre dommage qu'une de ses manchettes de dentelle qu'on lui avait arrachée. Mais la perte était légère. Il reçut même les excuses des gardes nationaux qu'il avait serré le plus fort et qui parlaient de le porter en triomphe à la municipalité. Libre, entouré des citoyens, Élodie, Rose et Julienne, Débailli, jeta à Philippe Dubois, qui n'aimait pas et qui soupçonnait de perfidie, un sourire amer et le dominant de toute la tête. « Allez, Dubois, si tu m'appelles encore Barbarouche, je t'appellerai Brissot. C'est un petit homme épais, ridicule, les cheveux gras, la peau huileuse, les mains gluantes. On ne doutera pas que tu sois l'infâme Brissot, l'ennemi du peuple. Et les Républicains, saisis à ta vue d'horreur et de dégoût, te pendront à la prochaine lanterne, tu entends ?» Le citoyen Blaise, qui venait de faire boire son cheval, assura qu'il avait arrangé l'affaire, quoiqu'il apparût à tous qu'elle avait été arrangée sans lui. On remonta en voiture. En route, Desmahy apprit au cocher que, dans cette plaine de Longjumeau, plusieurs habitants de la Lune étaient tombés autrefois, qui, par la forme et la couleur, approchaient de la grenouille, mais étaient d'une taille bien plus élevée. Philippe Dubois et Gamelin parlaient de leur art. Dubois, élève de Regnault, était allé à Rome. Il avait vu les tapisseries de Raphaël qu'il mettait au-dessus de tous les chefs-d'œuvre. Il admirait le coloris du Corrège, l'invention d'Annibal Carrache et le dessin du Dominicain, mais ne trouvait un ordre comparable pour le style au tableau de Pompei Batoni. Il avait fréquenté à Rome M. Ménageau et Mme Lebrun, qui tous deux s'étaient déclarés contre la Révolution. Aussi n'en parlait-il pas. Mais ils vantèrent Angelica Kaufmann, qui avait le goût pur et connaissait l'antique. Gamelin déplorait qu'à l'apogée de la peinture française si tardive, puisqu'elle ne datait que de Le Sueur, de Claude et de Poussin, et correspondait à la décadence des écoles italiennes et flamandes, eut succédé à un si rapide et profond déclin. Il rapportait les causes aux mœurs publiques et à l'Académie, qui en était l'expression. Mais l'Académie venait d'être heureusement supprimée, et sous l'influence des principes nouveaux, David et son école créaient un art digne d'un peuple libre. Parmi les jeunes peintres, Gamelin mettait sans envie au premier rang Hennequin et Topino Lebrun. Philippe Dubois préférait lui Regnault, son maître à David, et fondait sur le jeune Gérard l'espoir de la peinture. Élodie complimentait la citoyenne Thévenin sur sa toque de velours rouge et sa robe blanche. Et la comédienne félicitait ses deux compagnons, Pagne, de leur toilette et leur indiquait les moyens de faire mieux encore. C'était à son avis de retrancher sur les ornements. « On n'est jamais assez simplement mise, disait-elle. Nous apprenons cela au théâtre, où le vêtement doit laisser voir toutes les attitudes. C'est là sa beauté, il n'en veut point d'autre. » « Vous dites bien, ma belle, répondait Élodie. Mais rien n'est plus coûteux en toilette que la simplicité. Et c'est pas toujours par mauvais goût que nous mettons des fanfreluches, c'est quelquefois par économie. » Elles parlèrent avec intérêt des modes de l'automne, robes unies, toiles courtes, tailles courtes. « Tant de femmes sans les dix en suivant la mode, dit la Thévenin, on devrait s'habiller selon sa forme. »« Il n'y a de beau que les étoffes roulées sur le corps et drapées, dit Gamelin. Tout ce qui a été taillé et cousu est affreux. » Ces pensées, mieux placées dans un livre de Winckelmann que dans la bouche d'un homme qui parle à des Parisiennes, fut rejeté avec le mépris de l'indifférence. « On fait pour l'hiver, dit Élodie, des douillettes à la Lapone, en Florence et en Sicilienne, et des redingotes à la Zulim, à taille ronde, qui se ferment par un gilet à la Turque. « Ce sont des cache-misères, dit la Thévenin, cela se vend tout fait. J'ai une petite couturière qui travaille comme un ange et qui n'est pas chère. Je vous l'enverrai, ma chérie. » Et les paroles volaient, légères et pressées, déployant, soulevant les fins tissus, Florence rayée, Pékin unie, Sicilienne, gaze, Nankin. Et le vieux Brotteaux, en les écoutant, songeait avec une volupté mélancolique à ces voiles d'une saison jetées sur des formes charmantes, qui durent peu d'années et renaissent éternellement comme les fleurs des champs. Et ses regards, qui allaient de ces trois jeunes femmes aux bleuets et aux coquelicots du sillon, se mouillaient de larmes souriantes. Ils arrivèrent à Orangis vers les 9 heures et s'arrêtèrent à l'auberge de la cloche où les époux Poitrine logeaient à pied et à cheval. Le citoyen Blaise, qui avait rafraîchi sa toilette, tendit la main aux citoyennes. Après avoir commandé le dîner pour midi, précédés de leurs boîtes, de leurs cartons, de leurs chevalets et de leurs parasols, que portait un petit gars du village, ils s'en furent à pied par les champs vers le confluent de l'Orge et de l'Yvette, en ce lieu charmant d'où l'on découvre la plaine verdoyante de Longjumeau et que bordent la Seine et les bois de Sainte-Geneviève. Jean Blaise, qui conduisait la troupe artiste, échangeait avec le ci-devant financier des propos facétieux où passaient sans ordre ni mesure verbes auxquels généreux Catherine Cuisseau, qui colportait les demoiselles Chaudron, le sorcier Galichet et les figures plus récentes de Cadet Roussel et de Madame Angot. Évariste, pris d'un amour soudain à la nature en voyant des moissonneurs lier des gerbes, sentait ses yeux se gonfler de larmes. Des rêves de concorde et d'amour remplissaient son cœur. Des bahuts soufflaient dans les cheveux des citoyennes les graines légères des pissenlits. Ayant toutes trois un goût de citadine pour les bouquets, elles cueillaient dans les prés le bouillon blanc, dont les fleurs se serrent en épis autour de la tige, la campanule portant suspendue en étage ses clochettes lilas tendres, les grêles rameaux de la verveine odorante, l'yèble, la menthe, la gaude, la millefeuille, toute la flore champêtre de l'été finissant. Et parce que Jean-Jacques avait mis la botanique à la mode parmi les filles des villes, elles savaient toutes trois des fleurs, les noms et les amours. Comme les corolles délicates, alanguies de sécheresse, s'effeuillaient dans ses bras et tombaient en pluie à ses pieds, la citoyenne Élodie soupira. « Elle passe déjà, les fleurs !» Tous se mirent à l'œuvre et s'efforcèrent d'exprimer la nature telle qu'ils la voyaient. Mais chacun la voyait dans la manière d'un maître. En peu de temps, Philippe Dubois eut troussé, dans le genre de Hubert Robert, une ferme abandonnée, des arbres abattus, un torrent desséché. Évariste Gamelin trouvait au bord de l'Yvette les paysages du Poussin. Philippe Desmarie, devant un pigeonnier, travaillait dans la manière picaresque de Callot et de Duplessis. Le vieux Brotteau, qui se piquait d'imiter les Flamands, dessinait soigneusement une vache. Élodie esquissait une chaumière et son amie Julienne, qui était fille d'un marchand de couleurs, lui faisait sa palette. Des enfants, collés contre elle, la regardaient peindre. Elle les écartait de son jour en les appelant moucherons et en leur donnant des berlingots. Et la citoyenne Thévenin, quand elle en trouvait de jolies, les débarbouillait, les embrassait, leur mettait des fleurs dans les cheveux. Elle les caressait avec une douceur mélancolique parce qu'elle n'avait pas la joie d'être mère, et aussi pour s'embellir par l'expression d'un tendre sentiment et pour exercer son art de l'attitude et du groupement. Seule, elle ne dessinait ni ne peignait. Elle s'occupait d'apprendre un rôle et plus encore de plaire. Et son cahier à la main, elle allait de l'un à l'autre, chose légère et charmante. Pas de teint, pas de figure, pas de corps, pas de voix, disaient les femmes. Et elle emplissait l'espace de mouvements, de couleurs et d'harmonie. Fanée, jolie, lasse, infatigable, elle était les délices du voyage. D'humeur inégale et cependant toujours gaie, susceptible, irritable et pourtant accommodante et facile, la langue salée avec le ton le plus poli, vaine, modeste, vraie, fausse, délicieuse, Si Rostevena ne faisait pas bien ses affaires, si elle ne devenait point déesse, c'est que les temps étaient mauvais et qu'il n'y avait plus à Paris ni encens ni autel pour les grâces. La citoyenne Blaise, qui en parlant d'elle faisait la grimace et l'appelait sa belle-mère, ne pouvait la voir sans se rendre à tant de charme. On répétait à Feydeau les visitandines, et Rose se félicitait d'y tenir un rôle plein de naturel. C'est le naturel qu'elle cherchait, qu'elle poursuivait, qu'elle trouvait. « Nous ne verrons donc pas Paméla ?» dit le beau Desmahis. Le théâtre de la Nation était fermé et les comédiens envoyés aux Madelonnettes et à Pélagie. « Est-ce là la liberté ?» s'écria la Thévenin, levant au ciel ses beaux yeux indignés. « Les acteurs du théâtre de la Nation, dit Gamelin, sont des aristocrates, et la pièce du citoyen François tend à faire regretter les privilèges de la noblesse. » « Messieurs, dit la Thévenin, ne savez-vous entendre que ceux qui vous flattent ?» Vers midi, chacun se sentant grand faim, la petite troupe regagna l'auberge. Évariste, auprès d'Élodie, lui rappelait en souriant les souvenirs de leur première rencontre. « Deux oisillons étaient tombés du toit où ils nichaient sur le rebord de votre fenêtre. Vous les nourrissiez à la becquée. L'un d'eux vécut et prit sa volée. L'autre mourut dans le nid d'ouate que vous lui aviez fait. C'était celui que j'aimais le mieux, avez-vous dit. Ah, ce jour-là, vous portiez, Élodie, un nœud rouge dans les cheveux. Philippe Dubois et Brotteau, un peu en arrière des autres, parlaient de Rome où ils étaient allés tous deux, celui-ci en 72, l'autre vers les derniers jours de l'Académie. Et il souvenait encore au vieux Brotteau de la province Mondragone, à qui il eut bien laissé entendre ses soupirs, sans le comte Altieri qui ne la quittait pas plus que son ombre. Philippe Dubois ne négligea pas de dire qu'il avait été prié à dîner chez le cardinal de Berny et que c'était l'hôte le plus obligeant du monde. « Je l'ai connu, dit Brotteau, et je puis dire sans me flatter que j'ai été durant quelque temps de ses plus familiers. Il aimait à fréquenter la canaille. Oh, c'était un aimable homme, et bien qu'il fût métier de débiter des fables, il y avait dans son petit doigt plus de sainte philosophie que dans la tête de tous vos jacobins qui veulent vous évertuiser et vous en déficoquer. Certes, j'ai vu nos simples théophages qui ne savent ce qu'ils disent ni ce qu'ils font, que ces enragés barbouilleurs de loi qui s'appliquent à nous guillotiner pour nous rendre vertueux et sages et nous faire adorer l'être suprême qui les a faits à son image. Au temps passé, je faisais dire la messe à la chapelle des Liettes par un pauvre diable de curé qui disait, après boire, « Ne bénissons point des prêcheurs, nous en vivons, prêtres indignes que nous sommes. » Convenez, monsieur, que ce croqueur de rébus savait de saines maximes sur le gouvernement. Il en faudrait revenir là et gouverner les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'on les voudrait être. » La Thévenin s'était rapprochée du vieux Brotteau. Elle savait que cet homme avait mené grand train autrefois, et son imagination parait de ce brillant souvenir la pauvreté présente du ci-devant financier, qu'elle jugeait moins humiliante, étant générale et causée par la ruine publique. Elle contemplait en lui, curieusement et non sans respect, les débris d'un de ces généreux Crésus que célébraient en soupirant les comédiennes ses aînés. Et puis les manières de ce bonhomme à redingote, puce si râpée et si propre, lui plaisaient. « Monsieur Brotteau, lui dit-elle, on sait que jadis, dans un beau parc, par des nuits illuminées, vous vous glissiez dans des bosquets de myrtes avec des comédiennes et des danseuses, au son lointain des flûtes et des violons. Hélas, elles étaient plus belles, n'est-ce pas, vos déesses de l'opéra et de la comédie française, que nous autres, pauvres petites actrices nationales. Ne le croyez pas, mademoiselle, répondit Brotteau. Sachez que s'il s'en fût rencontré en ce temps une semblable à vous, elle se serait promenée seule, en souveraine et sans rivale, pour peu qu'elle l'eût souhaité, dans le parc, dont vous voulez bien nous faire une idée si flatteuse. L'hôtel de la cloche était rustique. Une branche de houx pendait sur la pente charretière qui donnait accès à une cour toujours humide où picoraient les poules. Au fond de la cour s'élevait l'habitation, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, coiffée d'une haute toiture de tuiles moussues et dont les murs disparaissaient sous de vieux rosiers tout fleuris de roses. À droite, des quenouilles montraient leurs pointes au-dessus du mur bas du jardin. À gauche était l'écurie, avec un râtelier extérieur et une grange en colombage. Une échelle s'appuyait au mur. De ce côté encore, sous un hangar encombré d'instruments agricoles et de souches, du haut d'un vieux cabriolet, un coq blanc surveillait ses poules. La cour était fermée, de ce sens par des étables devant lesquelles s'élevait, comme un tertre glorieux, un tas de fumier que, à cette heure, retournait de sa fourche une fille plus large que haute, les cheveux couleur de paille. Le purin qui remplissait ses sabots lavait ses pieds nus, dont on voyait se soulever par intervalles les talons jaunes comme du safran. Sa jupe troussée laissait à découvert la crasse de ses mollets énormes et bas. Tandis que Philippe Desmahis la regardait, surpris et amusé du jeu bizarre de la nature qui avait construit cette fille en largeur, l'hôtelier appela « Hé, la tronche, va quérir de l'eau !» Elle se retourna et montra une face écarlate et une large bouche où manquait une palette. Il avait fallu la corne d'un taureau pour ébrécher cette puissante denture. Sa fourche à l'épaule, elle riait. Semblables à des cuisses, ses bras rebrassés étincelaient au soleil. La table était mise dans la salle basse où les poulets achevaient de rôtir sous le manteau de la cheminée garni de vieux fusils. Longue de plus de 20 pieds, la salle, blanchie à la chaux, n'était éclairée que par les vitres verdâtres de la porte et par une seule fenêtre encadrée de roses auprès de laquelle l'aïeul tournait son rouet. Elle portait une coiffe et un bas-volet de dentelle du temps de la Régence. Les doigts noueux de ses mains tachetées de terre tenaient la quenouille. Des mouches se posaient sur le bord de ses paupières, elle ne les chassait pas. Dans les bras de sa mère, elle avait vu passer Louis XIV en carrosse. Il y avait 60 ans qu'elle avait fait le voyage de Paris. Et elle conta d'une voix faible et chantante aux trois jeunes femmes debout devant elle qu'elle avait vu l'hôtel de ville, les Tuileries et la Samaritaine, et que lorsqu'elle traversait le pont royal, un bateau qui portait les pommes au marché du Mail s'était ouvert, que les pommes s'en étaient allées au fil de l'eau et que la rivière en était tout empourprée. Elle avait été instruite des changements survenus nouvellement dans le royaume, et surtout de la zizanie qu'il y avait entre les curés jureurs et ceux qui ne juraient point. Elle savait aussi qu'il y avait eu des guerres, des famines et des signes dans le ciel. Elle ne croyait point que le roi fût mort. On l'avait fait fuir, disait-elle, par un souterrain, et l'on avait livré au bourreau à sa place un homme du commun. Au pied de l'aïeul, dans son Moïse, le dernier né des poitrines, Jeannot, faisait ses dents. La Thévenin souleva le berceau d'osier et sourit à l'enfant, qui gémit faiblement, épuisé de fièvre et de convulsion. Oh, il fallait qu'il fût bien malade, car on avait appelé le médecin, le citoyen Pelleport, qui, à la vérité, député suppléant à la Convention, ne faisait point payer ses visites. La citoyenne Thévenin, enfant de la balle, était partout chez elle. Mal contente de la façon dont la tronche avait lavé la vaisselle, Elle essuyait les plats, les gobelets, les fourchettes. Pendant que la citoyenne Poitrine faisait cuire la soupe, qu'elle goûtait en bonne hôtelière, Élodie coupait en tranches un pain de 4 livres encore chaud du four. Gamelin, en la voyant faire, lui dit « Oh, j'ai lu il y a quelque temps un livre écrit par un jeune Allemand, dont j'ai oublié le nom, et qui a été très bien mis en français. On y voit une belle jeune fille nommée Charlotte, qui, comme vous, Élodie, taillait des tartines, et comme vous, les taillait avec grâce, et si joliment qu'à la voir faire le jeune Werther devint amoureux d'elle. Et cela finit par un mariage ? Demanda Élodie. Non, répondit Évariste. Cela finit par la mort violente de Werther. Ils dînèrent bien, car ils avaient grand faim. Mais la chair était médiocre. Jean Blaise s'en plaignit. Il était très porté sur sa bouche et faisait de bien manger une règle de vie. Et sans doute, ce qui l'incitait à ériger sa gourmandise en système, c'était la disette générale. La Révolution avait dans toutes les maisons renversé la marmite. Le commun des citoyens n'avait rien à se mettre sous la dent. Les gens habiles qui, comme Jean Blaise, gagnaient gros dans la misère publique, allaient chez le traiteur où ils montraient leur esprit en s'empiffrant. Quant à Brotteaux, qui en l'an 2 de la liberté vivait de châtaigne de croûtons de pain, il lui souvenait d'avoir soupé chez Grimaud de la Reynière à l'entrée des Champs-Élysées. Envieux de mériter le titre de fine gueule, devant les choux au lard de la femme Poitrine, il abondait en savantes recettes de cuisine et en bons préceptes gastronomiques. Et comme Gamelin déclarait qu'un républicain méprise les plaisirs de la table, le vieux traitant, amateur d'antiquité, donnait au jeune spartiate la vraie formule du brouet noir. Après le dîner, Jean Blaise, qui n'oubliait pas les affaires sérieuses, fit faire à son académie, foraine, des croquis et des esquisses de l'auberge qu'il jugeait assez romantiques dans son délabrement. Tandis que Philippe Desmahis et Philippe Dubois dessinaient les étables, la tronche vint donner à manger aux cochons. Le citoyen Pelleport, officier de santé, qui sortait en même temps de la salle basse où il était venu porter ses soins aux petites poitrines, s'approcha des artistes et, après les avoir complimentés de leur talent, qui honorait la nation tout entière, il leur montra la tronche au milieu des pourceaux. « Bien, vous voyez cette créature, dit-il, c'est pas une fille, comme vous pourriez le croire, c'est deux filles. Oui, comprenez que je parle littéralement. Surpris du volume énorme de sa charpente osseuse, je l'ai examinée et me suis aperçu qu'elle avait la plupart des os en double. À chaque cuisse, 2 fémurs soudés ensemble. À chaque épaule, 2 humérus. Elle possède aussi des muscles en double. Oh, ce sont à mon sens 2 jumelles étroitement associées, ou pour mieux dire fondues ensemble. Bon, le cas est intéressant. J'ai signalé à M. Saint-Hilaire qui m'en a su gré. C'est un monstre que vous voyez là, citoyen. Ces gens-ci l'appellent la tronche, mais ils devraient dire les tronches. Elles sont 2. Oh, la nature a de ses bizarreries. Bonsoir, citoyen peintre. Nous aurons de l'orage cette nuit. Après le souper aux chandelles, l'Académie Blaise fit dans la cour de l'auberge, en compagnie d'un fils et d'une fille Poitrine, une partie de Colin Maillard, à laquelle jeunes femmes et jeunes hommes mirent une vivacité que leur âge explique assez pour qu'on ne cherche pas si la violence et l'incertitude du temps n'excitaient pas leur ardeur. Quand il fit tout à fait nuit, Jean Blaise proposa de jouer dans la salle basse aux jeux innocents. Mélodie demanda la chasse au cœur, qui fut acceptée de toute la compagnie. Sur les indications de la jeune fille, Philippe d'Émailly traça à la craie sur les meubles, les portes et les murs, sept cœurs, c'est-à-dire à deux moins qu'il n'y avait de joueurs, car le vieux Brotteau s'était mis obligeamment de la partie. On dansa en rond. La tour prend garde, et sur un signal d'Élodie, chacun courut mettre la main sur un cœur. Gamelin, distrait et maladroit, les trouva tous pris. Il donna un gage, le petit couteau acheté 6 sous à la foire Saint-Germain et qui avait coupé le pain pour la mère indigente. On recommença et ce furent tour à tour Blaise, Élodie, Brotteau et la Thévenin qui ne trouvèrent pas de cœur et donnèrent chacun leur gage, une bague, un réticule, un petit livre relié en maroquin et un bracelet. Puis les gages furent tirés au sort sur les genoux d'Élodie, et chacun, pour acheter le sien, dut montrer ses talents de société, chanter une chanson ou dire des vers. Brotteau récita le discours du patron de la France au premier chant de la Pucelle. « Je suis Denis et saint de mon métier, j'aime la Gaule. » Le citoyen Blaise, bien que moins lettré, donna sans hésiter la réponse de Richemont. Monsieur le Saint, ce n'était pas la peine d'abandonner le céleste domaine. Tout le monde, alors, lisait et relisait avec délice le chef-d'œuvre de l'Arioste français. Les hommes les plus graves souriaient des amours de Jeanne et de Dunois, des aventures d'Agnès et de Montrose, et des exploits de l'âne ailé. Tous les hommes cultivés savaient par cœur les beaux endroits de ce poème divertissant et philosophique. Évariste Gamelin lui-même, bien que d'humeur sévère, en prenant sur le giron d'Élodie son couteau de ciliard, récita de bonne grâce l'entrée de Gribourdon aux enfers. La citoyenne Thévenin chanta sans accompagnement la romance de Nina, « Quand le bien-aimé reviendra ». Et d'Émailly chanta sur l'air de la farine d'Ordenne quelques-uns prirent le cochon de ce bon Saint-Antoine, et lui mettant un capuchon, ils en firent un moine, il en coûtait que la façon. Cependant, d'Émailly était soucieux. À cette heure, il aimait ardemment les trois femmes avec lesquelles il jouait aux gauches touchées, et il jetait à tous trois des regards brûlants et doux. Il aimait la Thévenin pour sa grâce, sa souplesse, son art savant, ses œillades et sa voix qui allait au cœur. Il aimait Élodie, qu'il sentait de nature abondante, riche et donnante. Il aimait Julien Hazard, malgré ses cheveux décolorés et ses cils blancs, ses taches de rousseur et son maigre corsage, parce que, comme ceux du noir dont parle Voltaire dans la Pucelle, il était toujours prêt dans sa générosité à donner à la moins jolie le marque d'amour et d'autant plus qu'elle lui semblait pour l'instant la plus inoccupée et partant la plus accessible. Exempt de toute vanité, il n'était jamais sûr d'être agréé. Il n'était jamais sûr non plus de ne l'être pas. Aussi s'offrait-il à tout hasard. Profitant des rencontres heureuses, du gage touché, il tint quelques tendres propos à la Thévenin, qui ne s'en fâcha pas, mais n'y pouvait guère répondre sous le regard jaloux du citoyen Jean Blaise. Il parla plus amoureusement encore à la citoyenne Élodie, qu'il savait engager avec Gamelin, mais il n'était pas assez exigeant pour vouloir un cœur à lui seul. Élodie ne pouvait l'aimer, mais elle le trouvait beau, elle ne réussit pas entièrement à le lui cacher. Enfin, il porta ses vœux les plus pressants à l'oreille de la citoyenne à hasard. Elle y répondit par un air de stupeur qui pouvait exprimer une soumission abîmée aussi bien qu'une mort d'indifférence. Et d'Émailly ne crut point qu'elle était indifférente. Il n'y avait dans l'auberge que 2 chambres à coucher, toutes deux au premier étage et sur le même palier. Celle de gauche, la plus belle, était tendue de papier à fleurs et ornée d'une glace grande comme la main, dont le cadre doré subissait l'offense des mouches depuis l'enfance de Louis XV. Là, sous un ciel d'indienne à ramages, se dressaient deux lits garnis d'oreillers de plumes, d'édredons et de courtes pointes. Cette chambre était réservée aux trois citoyennes. Quand vint l'heure de la retraite, Desmahis et la citoyenne Hasard, tenant à la main chacun son chandelier, se souhaitèrent le bonsoir sur le palier. Le graveur amoureux coula à la fille du marchand de couleurs un billet par lequel il la priait de le rejoindre, quand tout serait endormi, dans le grenier qui se trouvait au-dessus de la chambre des citoyennes. Prévoyant et sage, il avait dans la journée étudié les êtres et exploré ce grenier, plein de bottes d'oignons, de fruits qui séchaient sous un essaim de guêpes, de coffres de vieilles malles. Il avait même vu un vieux lit de sangle, boiteux et hors d'usage, à ce qu'il sembla, et une paillasse éventrée où sautaient des puces. En face de la chambre des citoyennes était une chambre à trois lits, assez petite, où devaient coucher à leur guise les citoyens voyageurs. Mais Brotteau, qui était sybarite, s'en était allé à la grange dormir dans le foin. Quant à Jean Blaise, il avait disparu. Dubois et Gamelin ne tardèrent pas à s'endormir. Desmahis se mit au lit. Mais quand le silence de la nuit eut, comme une eau dormante, recouvert la maison, le graveur se leva et monta l'escalier de bois qui se mit à craquer sous ses pieds nus. La porte du grenier était entrebâillée. Il en sortait d'une chaleur étouffante et des senteurs âcres de fruits pourris. Sur un lit de sangle boiteux, la tronche dormait, la bouche ouverte, la chemise relevée et les jambes écartées. Elle était énorme. Traversant la lucarne, un rayon de lune baignait d'azur et d'argent sa peau qui, entre des écailles de crasse et des éclaboussures du purin, brillait de jeunesse et de fraîcheur. Oh, Desmahis se jeta sur elle. Réveillée en sursaut, elle eut peur et cria. Mais dès qu'elle comprit ce qu'on lui voulait, rassurée, elle ne témoigna ni surprise ni contrariété et feignit d'être encore plongée dans un demi-sommeil qui, en lui ôtant la conscience des choses, lui permettait quelques sentiments. Desmahis rentra dans sa chambre où il dormit jusqu'au jour d'un sommeil tranquille et profond. Le lendemain, après une dernière journée de travail, l'Académie promeneuse reprit le chemin de Paris. Quand Jean Blaise paya son hôte en assignat, la citoyenne Poitrine se lamenta de ne plus voir que de l'argent carré et promit une belle chandelle au bougre qui ramènera les jaunets. Il offrit des fleurs aux citoyennes. Par son ordre, la tronche, sur une échelle en sabots et troussée, montrant toujours ses mollets gracieux et resplendissants, coupait infatigablement des roses aux rosiers grimpants qui couvraient la muraille. De ses larges mains, les roses tombaient en pluie, en torrents, en avalanches, dans les jupes tendues d'Élodie, de Julienne et de la Thévenin. La berline en fut pleine. Tous, rentrant dans la nuit, en apportèrent chez eux des brassées, et leur sommeil et leur réveil en fut tout parfumé. Le matin du 7 septembre, la citoyenne Rochemaure, se rendant chez le jury Gamelin, qu'elle voulait intéresser à quelques suspects de sa connaissance, rencontra sur le palier le ci-devant Brotteau des Ilettes, qu'elle avait aimé dans les jours heureux. Brotteau s'en allait porter 12 douzaines de pantins de sa façon chez le marchand de jouets de la rue de la Loi. Et il s'était résolu, pour les porter plus aisément, à les attacher au bout d'une perche, selon les guises des vendeurs ambulants. Il en usait également avec toutes les femmes, même avec celles dont une longue habitude avait émoussé pour lui l'attrait, comme ce devait être le cas de Madame de Rochemaure, à moins qu'assaisonnée par la trahison, l'absence, l'infidélité et l'embonpoint, il ne la trouva appétissante. En tout cas, il l'accueillit sur le palier sordide au carreau disjoint, comme autrefois sur les degrés du perron des Ilettes, et la pria de lui faire l'honneur de visiter son grenier. Elle monta célestement l'échelle et se trouva sous une charpente dont les poutres penchantes portaient un toit de tuiles percé d'une lucarne. On ne pouvait s'y tenir debout. Elle s'assit sur la seule chaise qu'il y eut dans ce réduit, et ayant promené un regard sur les tuiles disjointes, elle demanda, surprise et attristée, « Oh, c'est là que vous habitez, Maurice ? Oh, vous n'avez guère à y craindre les importuns. Il faut être diable ou chat pour vous y trouver. »«
J'ai peu d'espace, » répondit le ci-devant. « Je ne vous cache pas que parfois il pleut sur mon grabat. C'est un faible inconvénient. Et durant les nuits sereines, j'y vois la lune, image et témoin des amours des hommes. Car la lune, madame, fut de tout temps attestée par les amoureux, et dans son plein pâle et ronde, elle rappelle à l'amant l'objet de ses désirs.
J'entends, dit la citoyenne.
Et leur saison, poursuivit Brotteau. Les chats font un beau vacarme dans cette gouttière. Mais il faut pardonner à l'amour de miauler et de jurer sur les faits, quand il emplit de tourments et de crimes la vie des hommes.
Tous deux, ils avaient eu la sagesse de s'aborder comme des amis qui s'étaient quittés la veille pour s'en aller dormir. Et bien que devenus étrangers l'un à l'autre, ils s'entretenaient avec bonne grâce et familiarité. Cependant, Madame de Rochemaure paraissait soucieuse. La révolution, qui avait été longtemps pour elle riante et fructueuse, lui apportait maintenant des soucis et des inquiétudes. Ses soupers devenaient moins brillants et moins joyeux. Les sons de sa harpe n'éclaircissaient plus les visages sombres. Ses tables de jeu étaient abandonnées des plus riches pontes. Plusieurs de ses familiers, maintenant suspects, se cachaient. Son ami, le financier Morhard, était arrêté, et c'était pour lui qu'elle venait solliciter le curé juré Gamelin. Elle-même était suspecte. Des gardes nationaux avaient fait une perquisition chez elle, retourné les tiroirs de ses commodes, soulevé des lames de son parquet, donné des coups de baïonnette dans ses matelas. Il n'avait rien trouvé. Lui avait fait des excuses et bu son vin. Mais ils étaient passés fort près de sa correspondance avec un émigré, M. d'Expilly. Quelques amis qu'elle avait parmi les Jacobins l'avaient averti que le bel Henri, son greluchon, devenait compromettant par ses violences trop outrées pour paraître sincère. Alors les coudes sur les genoux et les poings dans les joues, songeuse, elle demanda à son vieil ami, assis sur la paillasse, « Que pensez-vous de tout cela, Maurice ?»«
Oh, je pense que ces gens-ci donnent à un philosophe et à un amateur de spectacle ample matière à réflexion et à divertissement, mais qui serait meilleur pour vous, cher ami, que vous fussiez hors de France ?»«
Mais Maurice, où cela nous mènera-t-il ? »
C'est ce que vous me demandiez, Louise, un jour en voiture, au bord du Cher, sur le chemin des Ilettes, tandis que votre cheval, qui avait pris le mort aux dents, nous emportait d'un galop furieux.
Que les femmes sont donc curieuses!
Encore aujourd'hui, vous voulez savoir où nous allons, mais demandez-le aux tireuses de cartes.
Je ne suis point devin, mamie. Et le philosophe, même le plus saint, et d'un faible secours pour la connaissance de l'avenir. Ces choses finiront par, car tout finit. On ne peut pas en prévoir diverses issues. La victoire de la coalition et l'entrée des alliés à Paris n'en sont pas loin. Toutefois, je doute qu'ils y arrivent. Ces soldats de la République se font battre avec une ardeur que rien ne peut éteindre. Il se peut que Robespierre épouse Madame Royale et se fasse nommer protecteur du royaume pendant la minorité de Louis XVII.
Vous croyez ?
S'écria la citoyenne, impatiente de se mêler à cette belle intrigue.
Oui, je peux encore, poursuivit Brotteau. Que la Vendée l'emporte et que le gouvernement des prêtres se rétablisse sur des morceaux de ruines et des amas de cadavres. Vous ne pouvez concevoir, cher ami, l'empire que garde le clergé sur la multitude des ânes.
Oh, je voulais dire des âmes.
La langue m'a fourché. Le plus probable, à mon sens, c'est que le tribunal révolutionnaire amènera la destruction du régime qu'il a institué. Il menace trop de têtes. Ceux qui les feraient sont innombrables. Ils se réuniront et pour la détruire, ils détruiront le régime. Je crois que vous avez fait nommer le jeune Gamelin à cette justice. Oh, il est vertueux, il sera terrible. Plus j'y songe, ma belle amie, plus je crois que ce tribunal, établi pour sauver la République, la perdra. La Convention a voulu avoir, comme la royauté, ses grands jours, sa chambre ardente, et pouvoir sa sûreté par des magistrats nommés par elle et tenus dans sa dépendance. Mais que les grands jours de la Convention sont inférieurs aux grands jours de la monarchie, et sa chambre ardente moins politique que celle de Louis XIV. Il règne dans le tribunal révolutionnaire un sentiment de basse justice et de plate égalité qui le rendra bientôt odieux et ridicule et dégoûtera tout le monde. Savez-vous, Louise, que ce tribunal, qui va appeler à sa barre la reine de France et 21 législateurs, condamnait hier une servante coupable d'avoir crié « Vive le roi !» avec une mauvaise intention et dans la pensée de détruire la République. Nos juges, tous de noir emplumés, travaillent dans le genre de ce Guillaume Shakespeare, si cher aux Anglais, qui introduit dans les scènes les plus tragiques de son théâtre de grossières bouffonneries.
« Eh bien, Maurice, demanda la citoyenne, êtes-vous toujours heureux en amour ?»«
Hélas, répondit Brotteau, les colombes volent au blanc colombier et ne se posent plus sur la tour en ruine.
Vous n'avez pas changé. Au revoir, mon ami.
Ce soir-là, le dragon Henri, s'étant rendu sans y être prié chez Madame de Rochemaure, la trouva qui cachetait une lettre sur laquelle il lut l'adresse du citoyen Rouline à Vernon. C'était, il le savait, une lettre pour l'Angleterre. Pauline recevait par un postillon des messageries le courrier de Madame de Rochemaure et le faisait porter à Dieppe par une marchande de marée. Un patron de barque le remettait la nuit à un navire britannique qui croisait sur la côte. Un émigré, M. d'Expilly, le recevait à Londres et le communiquait, s'il le jugeait utile, au cabinet de Saint James. Henri était jeune et beau. Achille n'unissait pas à tant de grâce, à tant de vigueur, quand il revêtit les armes que lui présentait Ulysse. Mais la citoyenne Rochemaure, sensible naguère au charme du jeune héros de la commune, détournait de lui ses regards et sa pensée, depuis qu'elle avait été avertie que, dénoncé aux Jacobins comme un exagéré, ce jeune soldat pouvait la compromettre et la perdre. Henri sentait qu'il ne serait peut-être pas au-dessus de ses forces de ne plus aimer Madame de Rochemaure, mais il lui déplaisait qu'elle ne le distinguât plus. Il comptait sur elle pour satisfaire à certaines dépenses auxquelles le service de la République l'avait engagé. Enfin, songeant aux extrémités où peuvent se porter les femmes et comment elles passent avec rapidité de la tendresse la plus ardente à la plus froide insensibilité, et combien il aurait facile de sacrifier ce qu'elles ont chéri et de perdre ce qu'elles ont adoré, il soupçonna que cette ravissante Louise pourrait un jour le faire jeter en prison pour se débarrasser de lui. Sa sagesse lui conseillait de reconquérir cette beauté perdue. C'est pourquoi il était venu, armé de tous ses charmes. Il s'approchait d'elle, s'éloignait, se rapprochait, la frôlait, la fuyait, selon les règles de la séduction dans les ballets. Puis il se jeta dans un fauteuil et, de sa voix invincible, de sa voix qui parlait aux entrailles des femmes, il lui vanta la nature et la solitude et lui proposa, en soupirant, une promenade à Ermenonville. Cependant, elle tirait quelques accords de sa harpe et jetait autour d'elle des regards d'impatience et d'ennui. Soudain, Henri se dressa sombre et résolu et lui annonça qu'il partait pour l'armée et serait dans quelques jours devant Maubeuge. Sans montrer ni doute ni surprise, elle l'approuva d'un signe de tête. « Vous me félicitez de cette décision ?»«
Oui, je vous en félicite. »
Elle attendait un nouvel ami qui lui plaisait infiniment et dont elle pensait tirer de grands avantages. Tout autre chose que celui-ci. Un Mirabeau ressuscité, un Danton décroté, est devenu fournisseur, un Lion qui parlait de jeter tous les patriotes dans la Seine. À tout moment, elle croyait entendre la sonnette et tressaillait. Pour renvoyer Henri, elle se tut, bâilla, feuilleta une partition et bâilla encore. Voyant qu'il ne s'en allait pas, elle lui dit qu'elle avait à sortir et passa dans son cabinet de toilette. Il lui criait d'une voix émue « Adieu, Louise, vous reverrez jamais ?» Et ses mains fouillaient dans le secrétaire ouvert. Dès qu'il fut dans la rue, il ouvrit la lettre adressée au citoyen Rouline et la lut avec intérêt. Elle contenait en effet un tableau curieux de l'état de l'esprit public en France. On y parlait de la reine, de la Thévenin, du tribunal révolutionnaire, et maints propos confidentiels de ce bon Brotteau des Ilettes y étaient rapportés. Ayant achevé sa lecture et remis la lettre dans sa poche, il hésita quelques instants, puis, comme un homme qui a pris sa résolution et qui se dit que le plus tôt sera le mieux, il se dirigea vers les Tuileries et pénétra dans l'antichambre du comité de sûreté générale. Ce jour-là, à 3 heures de l'après-midi, Évariste Gamelin s'asseyait sur le banc des jurés en compagnie de 14 collègues qu'il connaissait pour la plupart, gens simples, honnêtes et patriotes, savants, artistes ou artisans. Un peintre comme lui, un dessinateur, tous deux pleins de talent, un chirurgien, un cordonnier, un ci-devant marquis, qui avait donné de grandes preuves de civisme, un imprimeur, de petits marchands, un échantillon enfin du peuple de Paris. Ils se tenaient là, dans leur habit ouvrier ou bourgeois, tondus à la Titus ou portant le catogan, le chapeau à cornes enfoncé sur les yeux, ou le chapeau rond posé en arrière de la tête, ou le bonnet rouge cachant les oreilles. Les uns étaient vêtus de la veste, de l'habit et de la culotte, comme en ancien temps, les autres de la carmagnole et du pantalon rayé à la façon des sans-culottes. Chaussés de bottes ou de souliers à boucles ou de sabots, ils présentaient, sur leur personne, toutes les diversités du vêtement masculin en usage alors. Ayant tous déjà siégé plusieurs fois, ils semblaient fort à l'aise à leur banc, et Gamelin enviait leur tranquillité. Son cœur battait, ses oreilles bourdonnaient, ses yeux se voilaient, et tout ce qui l'entourait prenait pour lui une teinte livide. Quand l'huissier annonça le tribunal, 3 juges prirent place sur une estrade assez petite, devant une table verte. Il portait un chapeau à cocarde, surmonté de grandes plumes noires, et le manteau d'audience, avec un ruban tricolore, tout pendait sur leur poitrine une lourde médaille d'argent. Devant eux, au pied de l'estrade, siégeait le substitut de l'accusateur public dans un costume semblable. Le greffier s'assit entre le tribunal et le fauteuil vide de l'accusé. Gamelin voyait ces hommes différents de ce qu'il les avait vus jusque-là, plus beaux, plus graves, plus effrayants, bien qu'ils prissent des habitudes familières, feuilletant des papiers, appelant un huissier ou se penchant en arrière pour entendre quelques communications d'un juré ou d'un officier de service. Au-dessus des juges, les tables des droits de l'homme étaient suspendues. À leur droite et à leur gauche, contre des vieilles murailles féodales, les bustes de Lepelletier, Saint-Fargeau et de Marat. En face du banc des jurés, au fond de la salle, s'élevait la tribune publique. Des femmes en garnissaient le premier rang, qui, blondes, brunes ou grises, portaient toute la haute coiffe dont le barillet puissé leur ombrageait les joues. Sur leur poitrine, auquel la mode donnait uniformément l'ampleur d'un saint nourricier, se croisait le fichu blanc où se recourbait la bavette du tablier bleu. Elle tenait les bras croisés sur le rebord de la tribune. Derrière elle, on voyait, clairsemés sur les gradins, des citoyens vêtus avec ces diversités qui donnaient alors aux foules un caractère étrange et pittoresque. À droite, vers l'entrée, et derrière une barrière pleine, s'étendait un espace où le public se tenait debout. Cette fois, il y était peu nombreux. L'affaire dont cette section du tribunal allait s'occuper n'intéressait qu'un petit nombre de spectateurs, et sans doute les autres sections, qui siégeaient en même temps, appelaient des causes plus émouvantes. C'est ce qui rassurait un peu Gamelin, dont le cœur, prêt à faiblir, n'aurait pu supporter l'atmosphère enflammée des grandes audiences. Ses yeux s'attachaient aux moindres détails. Il remarquait le coton dans l'oreille du greffier et une tache d'encre sur le dossier du substitut. Il voyait, comme avec une loupe, les chapiteaux sculptés, dans un temps où toute connaissance des critères antiques était perdue, et qui surmontait les colonnes gothiques de guirlandes d'orties et de houx. Mais ses regards revenaient sans cesse à ce fauteuil, d'une forme surannée, garni de velours d'Utrecht rouge, usé au siège et noirci au bras. Des gardes nationaux en armes se tenaient à toutes les issues. Enfin, l'accusé parut escorté de grenadiers, libre toutefois de ses membres, comme le prescrivait la loi. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, maigre, sec, brun, très chauve, les joues creuses, les lèvres minces et violacées, vêtu à l'ancienne mode d'un habit sans de bœuf. Sans doute parce qu'il avait la fièvre, ses yeux brillaient comme des pierreries et ses joues avaient l'air d'être vernies. Il s'assit. Ses jambes, qu'il croisait, étaient d'une maigreur excessive, et ses grandes mains noueuses en faisaient tout le tour. Il se nommait Marie-Adolphe Guillargue et était prévenu des dilapidations dans les fourrages de la République. L'acte d'accusation mettait à sa charge des faits nombreux et graves, dont aucun n'était absolument certain. Interrogé, Guillaume nia la plupart de ces faits et expliqua les autres à son avantage. Son langage était précis et froid, singulièrement habile et donnait l'idée d'un homme avec lequel il n'est pas désirable de traiter une affaire. Il avait réponse à tout. Quand le juge lui faisait une question embarrassante, son visage restait calme et sa parole assurée, mais ses deux mains, réunies sur sa poitrine, se crispaient d'angoisse. Gamelin s'en aperçut et dit à l'oreille de son voisin, peintre comme lui, « Regardez ses pouces !» Le premier témoin qu'on entendit apporta des faits accablants. C'est sur lui que reposait toute l'accusation. Ceux qui furent appelés ensuite se montrèrent au contraire favorables à l'accusé. Le substitut de l'accusateur public fut véhément, mais demeura dans le vague. Le défenseur parla avec un ton de vérité qui valut à l'accusé des sympathies qu'il n'avait pas su lui-même se concilier. L'audience fut suspendue et les jurés se réunirent dans la chambre des délibérations. Là, après une discussion obscure et confuse, ils se partagèrent deux groupes à peu près égaux en nombre. On vit d'un côté les indifférents, les tièdes, les raisonneurs, qu'aucune passion n'animait, et d'un autre côté, ceux qui se laissaient conduire par le sentiment, se montraient peu accessibles à l'argumentation et jugeaient avec le cœur. Cela condamnait toujours. C'étaient les bons, les purs. Ils ne songeaient qu'à sauver la République et ne s'embarrassaient point du reste. Leur attitude fit une forte impression sur Gamelin, qui se sentait en communion avec eux. « Ce Guillère, le songeait-il, est un adroit fripon, un scélérat qui a spéculé sur le fourrage de notre cavalerie. L'absoudre s'est laissé échapper un traître, c'est trahir la patrie, vouer l'armée à la défaite. » Les Gamelins voyaient déjà les hussards de la République sur leurs montures qui bronchaient, sabrés par la cavalerie ennemie. « Oui, mais si Guillère était innocent. » Il pensa tout à coup à Jean Blaise, soupçonné aussi d'infidélité dans les fournitures. Tant d'autres devaient agir comme Guillergue et Blaise, préparer la défaite, perdre la République. Il fallait faire un exemple. Oui, mais si Guillergue était innocent. Mais il n'y a pas de preuve, dit Gamelin à voix haute. Mais il n'y a jamais de preuve, répondit en haussant les épaules le chef du jury, un bon, un pur. Finalement, il se trouva 7 voix pour la condamnation et 8 pour l'acquittement. Le jury rentra dans la salle et l'audience fut reprise. Les jurés étaient tenus de motiver leur verdict. Chacun parla à son tour devant le fauteuil vide. Les uns étaient prolixes, les autres se contentaient d'un mot. Il y en avait qui prononçaient des paroles inintelligibles. Quand vint son tour, Gamelin se leva et dit « En présence d'un crime si grand que doter aux défenseurs de la patrie les moyens de vaincre, on veut des preuves formelles, que nous n'avons point. » À la majorité des voix, l'accusé fut déclaré non coupable. Guillergue fut ramené devant les juges, accompagné du murmure bienveillant des spectateurs qui lui annonçaient son acquittement. C'était un autre homme. La sécheresse de ses traits s'était fondue, ses lèvres s'étaient envolies. Il avait l'air vénérable. Son visage exprimait l'innocence. Le président lut d'une voix émue le verdict qui renvoyait le prévenu. La salle éclata en applaudissements. Le gendarme qui avait amené Guillergue se précipita dans ses bras. Le président l'appela et lui donna l'accolade fraternelle. Les jurés l'embrassèrent. Gamelin pleurait à chaudes larmes. Dans la cour du palais, illuminée des derniers rayons du jour, une multitude hurlante s'agitait. Les 4 sections du tribunal avaient prononcé la veille 30 condamnations à mort, et sur les marges du grand escalier, des tricoteuses accroupies attendaient le départ des charrettes. Mais Gamelin, descendant les degrés dans le flot des jurés et des spectateurs, ne voyait rien, n'entendait rien que son acte de justice et d'humanité et les félicitations qu'il se donnait d'avoir reconnu l'innocence. Dans la cour, Élodie, toute blanche, en larmes et souriante, se jeta dans ses bras et y resta pâmée. Et quand elle eut recouvré la voix, elle lui dit « Évariste, vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes généreux. Dans cette salle, le son de votre voix mâle et douce me traversait tout entière de ces ondes magnifiques, éthiques. Oh, j'en étais électrisé. Je vous contemplais à votre banc, je ne voyais que vous. Mais vous, mon ami, vous n'avez donc pas deviné ma présence ? Rien ne vous a averti que j'étais là ? Je me tenais dans la tribune, au second rang à droite.
Mon Dieu, qu'il est doux de faire le bien. Vous avez sauvé ce malheureux. Sans vous, vous s'en était fait de lui. Il périssait. Vous l'avez vendu à la vie et à l'amour des siens. En ce moment, il doit vous bénir. Évariste, oh, que je suis heureuse et fière de vous aimer. Se tenant par le bras, serrés l'un contre l'autre, ils allaient par les rues, se sentant si légers qu'ils croyaient voler. Ils allaient à l'amour peintre. Arrivés à l'oratoire, « Ne passons pas par le magasin, » dit Élodie. Elle le fit entrer par la porte cochère et monter avec elle à l'appartement. Sur le palier, elle tira de son réticule une grande clé de fer. « On dirait une clé de prison, » fit-elle. « Évariste, vous allez être mon prisonnier. » Ils traversèrent la salle à manger et furent dans la chambre de la jeune fille. Évariste sentait sur ses lèvres la fraîcheur ardente des lèvres d'Élodie. Il la pressa dans ses bras. La tête renversée, les yeux mourants, les cheveux répandus, la taille ployée et à demi évanouie, elle lui échappa et courut pousser le verrou. La nuit était déjà avancée quand la citoyenne Blaise ouvrit à son amant la porte de l'appartement et lui dit tout bas, dans l'ombre, « Adieu, mon amour. C'est l'heure où mon père va rentrer. Si tu entends du bruit dans l'escalier, monte vite à l'étage supérieur et ne descends que quand il n'y aura plus de danger qu'on te voit. Pour te faire ouvrir la porte de la rue, frappe 3 coups à la fenêtre de la concierge. Adieu, ma vie. Adieu, mon âme. » Quand il se trouva dans la rue, il vit la fenêtre de la chambre d'Élodie s'entr'ouvrir et une petite main cueillir un œillet rouge qui tomba à ses pieds comme une goutte de sang.